Il est 19h en universel et 20h à Bangui. Hein. C'est le temps de suivre maintenant le bulletin d'information en français présenté par Vinciane Neylo. Sabrina, bonsoir.
Bonsoir Stevenson Herbin Wallo, bonsoir à tous. À la une de ce bulletin, la haute autorité chargée de la bonne gouvernance constate des cas de fraude dans le dossier de certains candidats aux élections législatives de décembre prochain. Selon son président Guy Eugène Demba, des investigations ont révélé des falsifications sur les baccalauréats de plusieurs candidats. Il est contacté au téléphone depuis Boali par Jeff Dao.
Nous avons été saisis par voie de plainte, mais finalement, nous avons pu nous aussi nous auto-saisir pour vérifier un peu tous ces faits-là. Nous sommes rendus sur le terrain. Nous avons adressé un communiqué officiel sur les différentes radios de la place pour demander donc à ceux qui étaient concernés par cette plainte-là de pouvoir se rapprocher de nous. Et certains l'ont fait, donc notamment des candidats qui avaient composé en ce moment-là et qui avaient obtenu donc leur diplôme de baccalauréat sur ces questions, mais d'autres n'ont pas pu se rapprocher de nous. Et nous avons effectivement mené nos investigations, nous sommes allés à la direction des examens et concours, donc nous avons procédé comme il fallait le faire. Et nous en sommes arrivés à la conclusion qu'effectivement, il y a ces cas-là. Et naturellement, comme il se doit, nous avons adressé notre rapport donc à qui de droit.
Et puis, le Comité international de la Croix-Rouge, CICR, a sensibilisé les médias au droit international humanitaire. Ceci dans le cadre d'une activité visant à lutter contre la désinformation, laquelle, selon l'organisation, entrave ses missions. Astrid de Bonheur Kolenge y a pris part.
Ces assises tenues mercredi et jeudi ont pour but de renforcer le rôle du journaliste dans la diffusion d'informations liées à l'action humanitaire. Fridolin Goulou, panéliste sur le thème de la désinformation et de l'action humanitaire, revient sur l'attitude que doit adopter un journaliste face à ce défi.
S'il y a une désinformation qui cible les acteurs humanitaires, la démarche sera la même, c'est-à-dire de vérifier, d'aller auprès de ces personnes-là pour chercher la vraie information avant de dire. Vous savez que les acteurs humanitaires sont dans notre pays pour appuyer les actions du gouvernement et combler le vide que le gouvernement ne peut pas atteindre. Ils ont besoin aussi de cette protection.
Martial Vianney-Bofo, journaliste à la télévision centrafricaine, un des participants, en ressort satisfait.
La session de formation que le CICR a organisée, je vois que c'est vraiment capital. Du fait qu'avant, on est limité lorsque on va sur le terrain pendant les périodes de conflit. Voilà, on utilise des termes qui ne cadrent pas avec le terme consacré selon les conventions du droit international.
Selon Cyril Jean-Noël Gbaté, coordinateur en communication et prévention, la désinformation nuit au travail des humanitaires et compromet l'efficacité de leurs actions sur le terrain.
Il peut avoir aussi des conséquences au niveau des bénéficiaires, parce que s'il y a la désinformation, ça va constituer aussi un acte d'insécurité pour le personnel humanitaire.
Plusieurs organisations humanitaires souhaitent que les principes du droit international humanitaire soient relayés de façon fidèle et responsable par les médias.
Le gouvernement centrafricain et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance UNICEF réaffirment davantage leur engagement pour le bien-être des enfants. Les deux parties ont signé hier à Bangui un mémorandum d'attente pour des actions de défense des droits des enfants. À travers cette initiative, l'État promet augmenter le budget de l'éducation et de la santé pour le bien-être de l'enfant. Le point avec Emmanuel Samboulifis.
La signature de ce mémorandum d'attente s'est déroulée en présence des cadres du ministère des Finances, du Plan, de l'École normale d'administration et de la magistrature, des parlementaires et des représentants de l'UNICEF. Selon l'UNICEF, les indicateurs montrent que la RCA n'atteint pas le niveau du budget pour une bonne éducation des enfants. Félix Akebo, représentant de l'UNICEF.
Mais quand on regarde l'analyse de ces budgets qui sont déjà loués, il y a une grande partie qui va dans la partie salaire. Ce que nous recherchons, c'est que la partie du budget qui est allouée, en dehors des salaires, ce qui reste devrait aller à l'enfant, à la qualité de l'apprentissage, à ses soins ou à son bien-être.
Pour Bernard Kongaba, directeur général de l'INAM, c'est une nouvelle ère pour le gouvernement d'assurer un meilleur avenir pour les enfants de la République centrafricaine.
Tout ce qui touche au secteur de l'enfant soit bénéfique à l'enfant, aussi bien dans la planification, l'élaboration, l'exécution et le contrôle du budget. Que tout cela se passe dans la transparence afin que nos enfants aient un meilleur devenir pour demain.
La déclaration de Dakar recommande 13% du budget national des enfants africains consacré à l'éducation, mais la RCA est loin d'atteindre cet objectif. Ce mémorandum d'attente est une opportunité pour permettre au gouvernement centrafricain de relever ce défi pour favoriser l'accès pour tous à l'éducation.
Pendant ce temps, dans la Basse-Côte, les cours n'ont toujours pas démarré depuis dans plusieurs écoles de la commune de Mbelima, plus d'un mois après la rentrée de cette année. Des autorités éducatives et des responsables des écoles accusent les parents de garder leurs enfants à la maison. On en parle avec notre correspondant Ibrahim Bianga.
Dans la commune de Mbelima, située à 20 km de Mobaye, les portes de plusieurs écoles restent fermées. Certains responsables des établissements dénoncent le manque de volonté des parents. Alexis Lobele est le directeur adjoint de l'école mixte de Langandi.
C'est par rapport aux parents qui n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école. On a envoyé des notes au niveau des chefs de groupe, au niveau des églises, mais rien n'est passé.
En réponse à ces problèmes, une réunion a été organisée ce mardi 4 novembre à Langandi. Elle a regroupé les directeurs des écoles, les présidents des associations des parents d'élèves, les leaders religieux et les autorités locales. Mathirin Balewa, inspecteur d'académie de la Basse-Côte, attire l'attention des parents.
Ils ont parlé de manque d'enseignants qualifiés. Peut-être ils ont un peu perdu confiance aux maîtres parents, mais je les exhorte pour que nous puissions continuer avec ces maîtres parents. C'est vrai, on nous a envoyé des enseignants contractuels qui sont encore à Bangui par rapport à leurs émoluments. Si tout va bien, peut-être après un mois ou bien deux mois, ils seront contraints de revenir reprendre les chemins de cours.
David Ngakosi, chef des groupes du village Mboché, promet de mener des actions pour favoriser les retours des élèves dans les salles de classe.
Nous allons demander aux notables de sensibiliser les parents pour qu'ils laissent leurs enfants reprendre le chemin de l'école, car la place des enfants, c'est à l'école.
Plusieurs écoles de la commune de Mbelima font face à de nombreuses difficultés, notamment les nombres insuffisants des bâtiments scolaires. La prise en charge des maîtres parents est aussi un autre problème. Ibrahim Bianga, des retours de Mbelima, Radio Tikiluka.
Parlons de la santé dans ce bulletin. Le taux de prévalence du VIH-Sida en Centrafrique est officiellement connu. Selon le rapport, le taux est régressé de 40% pour la période 2014 à 2024. Il a été publié hier par le Comité national de lutte contre le VIH-Sida, CNLS. Docteur Tarsis Bariouta, directeur pays de l'ONU-Sida Bangui, est au micro de Jeff Daou.
C'est un rapport que chaque pays développe chaque année en utilisant l'outil qui a été développé et approuvé au niveau mondial par l'ONU-SIDA. Et cet outil est extrêmement important parce qu'en utilisant cet outil dans tous les pays, ça donne les vrais résultats où se trouve chaque pays en utilisant les mêmes informations et la même méthodologie. C'est extrêmement important qu'il y ait des progrès en termes de dépistage, en termes de traitement et même en termes de suppression de la charge virale, mais vous avez noté que dans ce rapport, on a aussi des pistes d'amélioration. Surtout dans le cas du dépistage, nous avons vu qu'il y a beaucoup de données qui viennent des communautés qui ne sont pas rentrées, donc qui nous faussent le vrai visage des cas dépistés.
Actualité africaine, la RDC et le Rwanda franchissent une nouvelle étape dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé en juin dernier sous la médiation américaine. Lors de la quatrième réunion du comité conjoint de surveillance de l'accord, les deux parties ont paraphé hier à Washington le cadre d'intégration économique régionale visant à renforcer la coopération et à réduire les bénéfices de la paix en développement concret. Football pour en finir, le championnat de la sous-ligue de Baoro a ouvert ses activités hier pour la saison sportive 2025-2026. Le match d'ouverture s'est soldé par un score de 2-2 entre le club JEB et ACB. Benjamin Belios Abo était présent.
6 clubs de la sous-ligue de Baoro participent à cette compétition dans l'espoir de décrocher le titre du champion local et représenter la ville lors du play-off préfectoral à venir. Mais déjà, certains joueurs pointent du doigt quelques difficultés d'organisation. Symphorien Pamea, attaquant de l'association des commerçants de Baoro ACB, s'en explique.
La difficulté que nous avons, c'est à cause de l'arbitre. Ici, c'est une seule arbitre qui est sur le terrain. Il n'y a même pas l'arbitre de touche et c'est la cause de problèmes dans le match. Surtout, l'arbitre, il est lui seul sur le terrain. Il ne ne voit pas de gauche à droite.
Les responsables de la Sous-Ligue reconnaissent, eux aussi, des insuffisances susceptibles d'affecter le bon déroulement du championnat. Manque d'arbitres et d'encadreurs, insuffisance de moyens financiers et déficit en infrastructures sportives. José Orofé, secrétaire général de la Sous-Ligue de Baoro, s'en remet à la solidarité du mouvement sportif.
À Baoro, il y a beaucoup de jeunes qui veulent participer à la formation des arbitres. Si il y a une formation à boire, on va envoyer certains jeunes d'aller là-bas pour être formés et enfin qu'ils puissent revenir ici pour prêter main forte avec nos arbitres de Baoro.
De son côté, la Ligue de football de Anana Mambéré dit être à l'écoute de ses préoccupations. Isaac Denamgan, président de la Ligue, rassure.
C'est des difficultés effectivement parce qu'il y a certaines personnes qui font la formation et puis après ils disparaissent soit au chantier ou bien bon, ils trouvent une ville où ils peuvent y aller. Donc j'ai pris note et je vais leur demander de choisir quelqu'un de stable pour que ce travail-là soit fait.
Le public sportif de Baoro retrouve ainsi le plaisir de ses loisirs quotidiens en assistant aux différentes rencontres sur le terrain municipal de Baoro. Belios Benjamin Abo de retour de Baoro, Radio Ndekeluka.
Fin de ce bulletin de la soirée préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité d'écoute. Au revoir